Parole Rurale, une émission de reportage à la rencontre des paysans du Sud Aveyron, où l'agriculture racontée par ceux qui la font. Par une belle journée d'été, nous nous rendons tout en haut d'une colline à la ferme de Roqueblanque, où Loane et Cécile, éleveuses de chèvres et de brebis, nous accueillent. Bonjour, alors est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ?
Oui, bonjour, alors moi c'est Loane Janssen-Mulon. Donc ici c'est le gars avec les drailles, voilà, sur la commune de Calmes-le-Viala, à Roqueblanque.
Un gars que tu as avec qui alors ?
Alors c'est Cécile Janssen-Mulon, voilà, on est à deux, depuis quasiment un an. Voilà.
D'accord, vous êtes arrivés ensemble sur la ferme ?
Voilà, c'est ça, ouais, en septembre dernier, en 2020.
Quel genre d'exploitation vous faites ici ? Vous produisez quoi ?
Alors ici, c'est du fromage de chèvre et de la viande d'agneau, principalement. Un petit peu de cabri aussi, parce qu'on essaie de les valoriser. Et voilà, mais on va dire que c'est plutôt secondaire, quoi.
Combien de chèvres ? Combien de brebis ?
Alors nous, on est en accroissement de troupeaux. On a 29 chèvres à la traite. Il y a quand même pas mal de chevrettes. Il y a 21 chevrettes. L'objectif, c'est 60 chèvres. Au niveau des brebis, on a 61 brebis, donc pour la plupart des jeunes qui ont mis bas pour la première fois cette année. Il y a 18 annuels de renouvellement, et donc l'objectif à terme, ça va être dans les 150 par là.
Le fromage et la viande, c'est vous qui les transformez ?
Alors,
pour la viande par exemple, tu vas faire la découpe
On va à l'atelier de découpe de Camarès, qui nous fait la prestation de découpe de l'agneau, pour le cabri, pour les brebis de réforme aussi. Que nous, on s'occupe de la transformation du lait de chèvre en fromage.
D'accord, c'est vous-même qui le transformez, l'affinez ?
Voilà, on transforme, d'accord. On affine.
Et vous avez la cave sur place ?
En fait, pour l'instant, on ne fait que du lactique. Enfin, t'as vu tout à l'heure, là, c'est des... C'est des tunnels, c'est pas des vieux bâtiments, donc on peut pas avoir de cave, je dirais en pierre, puisque fonctionnellement c'est pas possible. C'est des caves qui marchent à l'électricité, avec un froid régulé, et donc une hygrométrie que je régule moi à ma façon, avec des moyens du bord, on va dire. Tu veux la cave naturelle, ce qui va faire la grosse différence, je pense, c'est au niveau de la flore existante. Par rapport aux murs, qui sont en matériaux naturels, qui sont beaucoup plus riches de flore, mais des fois aussi de flore qu'on ne désire pas. Donc il y a un aspect des fois qu'on peut avoir des accidents de fromagerie parce qu'on a une cave qui ne convient pas au fromage. Donc c'est vrai que là, moi, c'est des fois plus simple, des fois plus compliqué. Je pense que ça dépend des gens.
Pourquoi vous avez choisi la brebis et la chèvre ?
Une
histoire d'affinité quand même.
Ah oui. Moi je suis née en Ardèche déjà. J'ai grandi en Ardèche, donc les chèvres, c'est vrai que
il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup. Après, c'est vrai que on est venu à l'agriculture il y a une bonne dizaine d'années. Et on a fait un BPREA avec un projet au départ qui n'était pas tout à fait celui d'aujourd'hui, mais qui était proche quand même. Et nous, notre objectif, c'était de voir un maximum de production, de régions, parce que les productions ne sont pas les mêmes selon les régions, même si c'est la même production. Et donc on a bourlingué beaucoup pendant 10 ans, on a vu beaucoup de choses, on a fait beaucoup de fermes différentes, on a travaillé dans beaucoup d'endroits. Et du coup, c'est une histoire d'affinité, et puis c'est le pastoralisme aussi, parce que nous on a une conduite quand même pastorale, et ça se prête beaucoup, la chèvre et la brebis en fait, c'est... Ouais. La vache, ça se prête un peu, mais sur des terrains comme ça, la broussaille et tout, parce qu'il y a le côté, l'affinité avec l'animal, parce que c'est des animaux hyper sympas, et puis aussi, c'est aussi valoriser des terrains pauvres, des terrains pas forcément cultivés, et avoir des bêtes en bonne santé, parce que ça leur convient aussi, ce type de terrain, la variété qu'elle offre.
Et alors, toi, l'agriculture, t'as grandi dedans, t'es venu sur le tard, comment ça t'est venu ?
Alors, l'agriculture, je suis pas du tout du milieu agricole. Ouais. Alors moi, j'avais bien en Ardèche, ma mère avait des amis qui étaient en chèvre déjà. Moi j'ai des arrière-grands-parents qui étaient agriculteurs, comme tout le monde quasiment, je dirais. Sinon, j'étais rurale, je suis née dans une maison sans eau, sans électricité. Voilà, et j'ai toujours vécu à la campagne.
C'était des parents babacool ?
Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'était la grande époque de l'Ardèche, quoi.
Ouais, les hippies, tout ça.
Ouais, voilà.
Les années 70. D'accord. Donc, et tu es venu comment à l'agriculture? Comment, pourquoi?
C'est le besoin de faire quelque chose, déjà, qui ait du sens. Qui soit physique et en même temps, qui soit complet, parce qu'on a besoin d'avoir quand même pas mal de connaissances théoriques. De réfléchir pas mal quand même à notre système, au fonctionnement, à plein de choses qui appellent aussi des connaissances au niveau de la biologie puis oui, des animaux, l'aspect extérieur aussi, beaucoup. On n'a jamais fini d'apprendre. Et c'est ça qui est super riche. Même ce qu'on sait, un jour peut-être on se dira, finalement c'est peut-être qu'il y a mieux à faire, dis donc.
Ah, dis donc, je suis passé à côté de ça.
Ouais, ça se trouve, ouais, non, mais à passer à côté, se dire que finalement je vais changer, je vais peut-être approfondir plus autre chose parce que finalement ça convient mieux.
Mais en ayant fait 10 ans de salariat agricole, tu as dû voir beaucoup de méthodes différentes,
beaucoup
de pratiques.
Hein, beaucoup de.
Ça t'a permis de te construire un beau bagage.
Je suis hyper contente d'être passée par là parce que je suis quelqu'un qui aime bien savoir pas mal de choses avant de se lancer, je pense. Et au moins pour faire des choix, déjà, tout simplement. Et pas être démuni quand il se passe des choses. Ça c'est super. Hein, ça, franchement, d'aller voir un petit peu partout comme ça, c'est hyper important, je pense. Surtout quand on n'est pas du milieu, quoi. Et même, je pense, quand on est du milieu, c'est important.
Ouais, donc là, on est à côté des biquettes. Combien il y en a, là, des biquettes, à peu près?
Là, du coup, il y en a une cinquantaine, quoi.
Ah, d'accord. Ah oui, j'avais pas dit, là. Et il y a les brebis avec. Ah,
et les brebis, ouais.
Les
brebis, il y en a... du coup, il y en a une centaine. Il y en a une centaine avec les agneaux, parce que nous, on fait sortir les agneaux.
Alors, bonjour, Cécile. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît?
Ouais, je m'appelle Cécile.
Ouais, c'est un bon début.
J'ai 43 ans. Le temps passe vite.
Eh oui.
Ça fait combien de temps? 10 ans environ qu'on est dans l'agriculture. Et au début, on avait fait d'autres études à la fac. Puis finalement, fac de sport, tout ça, on s'est rencontrés avec Loan à l'armée. Puis, envie de faire quelque chose qui sert à quelque chose. Et en fait, on s'est rendu compte que l'armée, ça avait des atouts, mais pas que. Même si ça nous a beaucoup appris sur les valeurs, tout ça, le goût de l'effort, tout ça. On a quand même voulu faire un petit peu un truc... à notre échelle, on sait que faire l'agriculture, tu peux être toi-même et faire une agriculture qui te correspond. Il y a autant de types d'agriculture que de types d'agriculteurs. Alors que l'armée, tu vois, l'institution, c'est beaucoup plus difficile d'être toi-même, c'est un tout, quoi. Et donc, du coup, l'armée, on a arrêté. Et puis, on s'est dit, on a eu l'idée de faire ce métier. En étant encore militaire de camp Juers, il y avait des bergers qui gardaient les troupeaux dans ce camp. Et on a vu des bergers qui étaient dehors, qui vivaient simplement. Et puis on s'est dit, c'est ça qu'on va faire.
Auprès de la nature.
Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est comme ça qu'on a eu l'idée. Et on a tout articulé pendant les 10 ans d'expérience de salarié pour atteindre cet objectif de s'installer, quoi.
Et toi, tu es issu du milieu agricole ou pas?
Non. Ouais.
Et donc, vous vous êtes retrouvé ici, mais vous n'êtes pas du tout de la région?
Non.
Comment vous avez fait? C'est en allant...
Ouais, on a
en faisant de
boulot,
ferme
hein.
En ferme.
Ouais. Moi, j'ai travaillé en Nord-Aveyron en chèvre, les fromages. Et Cécile, elle a travaillé dans un groupement d'employeurs en brebis laitière du côté de vers Rodez, quoi, Concourès, tout ça.
Concourès, Bozoul, Saint-Julien de Rodel, tout ça.
Et donc là, Roqueblanc, vous y êtes depuis quand, alors?
Depuis
un an.
Il y a un an, ouais.
Un an. Bon, est-ce que vous arrivez à en tirer un revenu?
Non, pas encore.
Non,
oh là là.
Vous n'en vivez pas bien encore?
Pas du tout.
Non, pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est la DGA qui nous...
La DGA, eh oui.
Ouais. Qui nous aide.
Eh oui, mais pourtant, vous avez passé les 40 ans, non?
Non, pas moi. Pas elle. Ouais. Moi, j'ai eu 40 ans en décembre dernier, là. On s'est installé 3 mois après, j'avais 40 ans. Bon, ouais, c'est ça, ouf. C'est bon.
Et il était temps de la trouver, la ferme.
Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Non, là, on a eu de la chance, quand même, parce que ça faisait longtemps qu'on cherchait. À chaque fois qu'on a travaillé quelque part, on cherchait toujours en même temps cette occasion. Hein.
Et alors, ce que vous produisez, vous le vendez comment?
Alors, on fait le marché de Saint-Afrique le samedi, mais on a fait que depuis 3 semaines. Là.
D'accord.
Donc, c'est très récent. On vend un petit peu à la Biocoop, un petit peu au fromager de Saint-Afrique. Et on va en mettre à l'épicerie Del País.
La semaine prochaine,
D'accord.
L'épicerie Del País et aussi la Vie Claire. Voilà. J'ai été les voir, là, ils vont faire une vitrine... pour du frais,
oui.
Et du coup on va mettre les produits là. Et les particuliers aussi, qui viennent à la
oui,
ferme.
Oui, à la ferme, il y a toujours quelques personnes qui
les
viennent.
Les voisins qui viennent.
Les gens qui viennent ici.
Voilà, le bouche-oreille. Oui. Ça marche bien, le bouche-oreille. Ouais.
Mais du coup, là, le troupeau est en accroissement.
Ouais.
Ah, vous êtes en bio.
Ouais.
Avec l'accréditation, là la...
Ouais, label, EcoCert. Et t'as droit à 1,50 m, mais nous, on veut laisser les cabris dessous. C'est ce qui se fait pas, d'ailleurs, d'habitude. Mais bon, Nature et Progrès, par exemple, nous, on n'est pas encore en Nature et Progrès, mais on y pense. Je sais pas si, bon, comment ça va se déroulera, si on le fera. Mais par exemple, tu peux aller plus loin que le simple bio, on va dire, en laissant les cabris de renouvellement dessous la mer. Et même les cabris viande que tu après tu valorises. Nous, on fait des rillettes.
Ah oui.
Des rillettes. D'accord. Avec ceux qu'on garde pas.
Des rillettes de chevrons.
Ouais. Ouais. Sans porc ajouté. Et c'est une manière, si tu veux, de valoriser ton sous-produit, puisque ton produit principal, c'est le fromage, donc le lait. Tu valorises ton sous-produit, et pour ça, il faut trouver la clientèle qui soit d'accord pour acheter le sous-produit, quoi.
Ouais. Donc, ce beau métier d'agriculteur, est-ce que vous le conseilleriez à quelqu'un qui veut s'installer, qui a projet ?
Bah, moi, je le conseille, oui, complètement. Hein. Moi, ouais. Je trouve que, enfin, vraiment... C'est un métier qui a du sens, qui est, bah, comme je disais tout à l'heure, on a plein de cordes à son arc, c'est hyper varié. Et puis il faut... Ouais, le métier d'agriculteur, d'éleveur notamment, c'est du temps. Hein. Du temps et de la passion un peu, je pense quand même. Parce que comme c'est beaucoup de temps, il faut, je pense qu'il faut quand même aimer ce qu'on fait. Quoi.
C'est... Ouais.
Parce que voilà,
oui, c'est on compte pas trop. C'est quand même ouais, voilà. Tu passes tes journées.
Bah ouais, c'est ça, ouais.
Ça vous est arrivé de partir en vacances depuis que vous êtes arrivé ?
Non.
Ben non.
La dernière vacance qu'on a prise, c'est en 2016.
Ouais.
En 2016 ?
On s'est habitué, nous, progressivement, à travailler tous les jours. Ça fait 10 ans qu'on est dans l'agriculture, mais au tout début, on trouvait ça long, les journées qui finissaient à 19h, et puis maintenant, on trouve ça presque...
Ouais, 19h, c'est tôt, quoi. Plutôt 22h.
22h, ouais.
Ouais, les arrachés du travail, quoi. Ça y va.
Ouais, mais en même temps, tu travailles tout le temps, mais c'est jamais... Comment dire,
c'est pas l'usine, quoi. T'as pas un rythme, ouais. Tu vois. C'est voilà. Moi, je vois. Tu vois, quand tu vas garder tes bêtes, par exemple, il faut que tu y sois. C'est du temps à passer, mais t'es pas usé comme si tu passais une journée à l'usine, quoi. Enfin.
L'agriculture, donc, ça fait 10 ans que vous êtes dedans.
Ouais.
Est-ce que vous avez une idée de, ayant vu comment elle a évolué, de comment elle va évoluer dans le futur? Est-ce que vous avez une idée de ce que pourrait être l'agriculture dans 10 ans, dans 20 ans, ou serait-ce qu'ici, quoi?
Ouais. C'est pas évident à dire, mais je pense que ça va changer, parce que de toute façon, au niveau climatique, ça peut pas faire autre chose que changer. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, on va revenir aux races rustiques là, qui mangent des sous-bois. Y en a qui essaient de faire des essais de planter des arbustes fourragers type framboisier, des choses qui sont beaucoup plus résistantes à la sécheresse et qui font beaucoup plus de feuillage, donc beaucoup plus de rendement, quoi, en fait. Et parce que je pense que toutes ces prairies là, qu'on voit maintenant actuellement, si le climat il continue à aller comme ils disent dans le sens d'où il va maintenant, là, c'est sûr que ça ne va pas rester comme ça. C'est sûr. Après, mon avis, je pense que...
Il y aura beaucoup moins de vaches, il y aura beaucoup moins de céréales pour le bétail, donc il ne te faudra pas finir tes agneaux avec de la céréale, il te faudra qu'ils soient donc, des races rustiques, ça se finit à l'herbe, rien que de voir l'herbe pousser, ça graisse, quoi. Et il faudra repartir en transhumance. Hein. Je pense qu'avant, ici, ils partaient en transhumance. Ouais. Hein. Parce que le foin l'été, c'est une aberration. Quoi, si tu veux.
Ouais. Bah, le foin, niveau. Tu vois, le foin l'été, c'est le serpent qui se mord la queue. Pour pallier à la sécheresse de l'été, on fait du foin. Et pour faire du foin, on utilise du pétrole qui participe à la sécheresse. Tu vois, c'est à un moment donné. Ouais, ça va pas, quoi.
Faudrait voir, faut qu'on y goûte des méandres au creux des reins. Tout ira bien. Le vent l'emportera. Ton message à la grande ours, la trajectoire de la course, l'instantané de velours, même s'il sert. Le vent l'emportera. disparaîtra, le vent nous portera. Caresser la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours. À ta porte, l'infinité de destin en imposant, et qu'est-ce qu'on en retient? Le vent l'emportera, pendant que la marée monte et que chacun fait ses comptes, j'emmène au creux de mon âme des poussières.
Aujourd'hui, pour les auditeurs, il y a un enclos sous la forêt, en sous-bois, avec chèvres et brebis mélangés. Et c'est facile pour les reconnaître, il y en a qui ont des cornes et les autres pas.
Ouais, mais c'est surtout la laine.
Oui.
Il y en a qui ont la laine.
Il y en a qui ont de la laine.
Et d'autres du poil.
Et donc, vous me disiez tout à l'heure, il y a plusieurs races de chèvres là.
Ouais, alors il y a quand même pas mal de massifs centrales, principalement. Ouais. Avec plusieurs robes, grises, noires et blanches, marron, rouge un peu, là.
Celle-là, elle est jolie comme tout.
Ouais, elle est jolie, la grise. Ouais. Hein, ouais. Ouais, elle, c'est Sarment, elle. Sinon, il y a de l'alpine, les marrons, avec le trait noir sur le dos.
Ouais.
Et bah, il y a des croisés avec le rove. Attends, je vais t'en prendre une. Regarde, celle-là qui est croisée alpine et rove. Tu vois, celle qui a les cornes qui s'écartent
ah oui.
bien, là.
Ouais.
Et là, t'as Mougli, le menon. Tu vois, c'est un mâle castré. Le noir qui rumine là dans les
arbres. Ah d'accord, avec sa coche.
Voilà, et lui il mène le troupeau.
Bon voilà, et là on les a dérangés parce que normalement c'est l'heure de la sieste.
C'est la sieste.
Et il est 2h30 ou quelque chose comme ça.
Ouais, les pauvres.
Elle chôme.
Elle rumine.
Et on est venu avec les chiennes sont tout excitées à côté.
C'est ça. Il fait bon là.
Et vers 5h, 6h, on les lâche. Mmh. Et on va les faire manger jusqu'à 21h, 21h, ouais, 21h30.
Tu les lâches, c'est-à-dire, tu ouvres l'enclos et elles vont où elles vont.
Ah non, on les garde.
On les garde.
Ah. Avec on les mène là où on veut qu'elles mangent. On leur fait. En fait, c'est nous qui choisissons. On veut leur faire un repas de ça, un repas de ça, un repas de ça. Mmh. C'est toi un peu qui gère un peu ce qu'elles mangent. Après, elles choisissent bien sûr ce qu'elles mangent, mais tu gères les coins parce que tu sais que là, c'est plus, y a plus telle essence végétale.
Elles te suivent
là,
si tu veux.
Quand tu. Tu vois.
T'as une poignée? Elle vient, elle D'accord. se met là, tu vas les coincer, ça ouvre l'autre porte, c'est un cornardier en cascade. Là, suivante, elle se bloque, ainsi de suite, et t'en rentres 12 sur le quai.
12.
Tu les traites sur pot, on a quand même la pompe à vide qui
marche. Ah là, avec ça.
Ouais, ça on branche le pot trieur, on a un pulsateur sur le pot trieur, et on arrive à pas s'embêter à traire à la main. Si tu veux, au début, on traillait à la main, mais c'était hyper long, quoi.
Mais s'il fait frais.
Ouais, si c'est bon. C'est du Cyporex, ça isole.
Ah.
On dirait pas qu'on est dans un tunnel, tu vois.
Ouais, c'est vrai.
Ouais. C'est l'impression qu'on a eue quand on est arrivé la première fois, on s'est dit on dirait une maison. Ouais. Et ouais, le fait d'avoir un Cyporex.
Non, mais Jean-Laurent, il avait fait un truc bien déjà, franchement. Ça, c'est cool, je trouve, parce que l'idée que lui, il ait amélioré le coin et que nous, en même temps, bah, là, on apporte encore quelque chose de différent, je trouve que
c'est sympa, quoi.
Ouais, c'est...
Les prochains, ils feront mieux.
Et voilà. Les prochains, ils amèneront encore autre chose et ça va encore évoluer, c'est cool, quoi. Là, même si on n'est pas propriétaire, je trouve que... Pour le lieu, quoi.
Ouais.
Là, c'est le vestiaire.
D'accord.
Et puis après, là, c'est la laiterie. Avec le petit tank.
Donc ça, c'est... 100
litres.
100
litres.
100
litres, il est tout petit. Voilà. C'est un mini-tank.
Alors le lait, il arrive... Ah, oh, tiens, c'est tombé. Tu vois les pots?
Ouais.
Pour traire.
Ah ouais.
Ils sont sur chariot.
Des pots de 30 litres. Hein.
Ouais. Voilà. Mm-hmm. Et ici, t'as le pulsateur qui est sur le couvercle, avec un joint. Mm-hmm. Tu remets ton joint là-dedans.
Ah ouais. Tu le fous sur le pont.
Tu le mets sur le pont. Tu fermes ton couvercle. Après, t'as des clapets ici sur les manchons. Mmh. En position traite. Mmh. Et après, ici, tu branches ton tuyau d'air que tu as vu dehors, là, en bas du quai de traite. Tu le branches là. Et du coup, tu t'allumes ta pompe à vide ici, tu vois.
Ouais, ici, on n'entend pas trop.
On n'entend pas trop. Tu branches ton air.
Ça sert à quoi l'air? C'est pour faire arriver le lait jusqu'ici?
En fait, non, oui, ça fait venir le lait, ça aspire. Hein, ça a deux fonctions, ça aspire le lait du coup qui l'aide à couler là. Ouais. Et ça fait aussi.
Ça masse.
Tu veux, là-dedans le manchon il fait.
Ça masse la masse.
Et ça c'est l'air en fait qui va faire que ça s'appuie et ça
d'accord,
dessert.
D'accord.
Ça, en fait ça mime la tétée quoi.
Ouais.
Du petit.
Ça stimule la tétée.
La traite à la main, c'est d'accord. Pareil. C'est...
Je le fais en...
Voilà. Et à la fin de la tétée, à chaque fois, il faut tout nettoyer.
Voilà, c'est ce que je fais après.
Tout propre. Ouais.
Pendant qu'elle va ensemencer le lait, moi, je nettoie les pots ici. Ouais. C'est pour ça que j'ai un interrupteur pour la pompe à vide ici. Mmh. Et je le nettoie là, tu vois. Le lait, il est filtré quand il arrive par les chariots, tac, hop. Après, on met là.
Tac.
On met l'entonnoir, là. Des filtres avec. On a trois.
C'est des filtres papier.
Tu choisis en fonction de quoi les filtres?
Tu mets les trois. Non, en fait, tu avais trois, mais tu as des filtres papier.
Ah, d'accord.
Tu vois, c'est.
Ok. Voilà.
Les
tu mets les trois.
Voilà.
Ils sont là.
Donc tu commences le plus gros, j'imagine, il est en haut, et le plus fin, il est en bas.
Bon, en fait, c'est le plus conique, il est en bas.
Ouais.
Après, tu mets un filtre papier.
Comme ça. Tac.
D'accord.
Après,
donc, oui, la passoire, un bout de papier. La deuxième passoire, un autre bout de papier.
Voilà, et voilà, il y a la troisième passoire. Et après, comme ça, tac, tac, et là.
Et là, tu le poses dans ton gros entonnoir.
Voilà.
Et alors, j'ai vu qu'à l'intérieur, là, il y a une espèce de pale. Il faut faire tourner le lait pour séparer le petit lait, je sais pas.
Non, en fait, ça, c'est parce que les temps, souvent, c'est pour la conserve. Moi, je fais juste, je le refroidis à 22 degrés, parce qu'on transforme, comme on est en monotraite, on transforme tous les jours. Après chaque traite, mais il y en a plein, s'ils font deux traites, la traite du soir, ils la gardent à 4 degrés. Et du coup, le lait, si tu le tournes pas, il y a la crème qui remonte avec le froid. Et du coup, c'est mal mélangé, alors que dans le fromage, on a besoin qu'il y ait la crème aussi, quoi. Ouais. Et la pâle sert à mélanger le lait, parce que la crème reste en émulsion dans le lait, quoi.
En fait, quand on arrive, le lait, il est sorti du puits, donc il est à combien? Il est à 35, il doit refroidir un peu quand on trie.
Ouais, bah là, il arrive, il est à 28,
29. 29, on le met dans le tank, on le filtre, on règle le thermostat à 22, il descend jusqu'à 22, à 22, il s'arrête, Loana récupère le lait, elle passe à côté, elle met le ferment, et puis moi, à ce moment-là, je nettoie le tank, je nettoie les bidons, et puis voilà. Après, on lâche les bêtes, et le fromage, elle le fait après. Ça, c'est pas ma partie.
Non,
c'est toi qui expliques.
Ah oui.
Oui.
Explication. Le fromage.
Le fromage. J'ensemence le lait.
Tu ensemences le lait.
Oui.
Avec quoi?
Avec des ferments. C'est des bactéries lactiques en fait.
La présure de.
Non, la présure ça vient après.
D'accord.
La présure c'est de l'extrait de caillettes de cabri. Et ça vient. Il faut d'abord que le lait s'acidifie un petit peu. Donc sous l'action des bactéries lactiques, elles consomment le lactose, elles font de l'acide lactique qui va permettre de coaguler. De faire un gel, quoi. Et, donc, de séparer en gros ce qui va être solide et ce qui va être liquide, donc l'eau, surtout l'eau, hein, parce que le lait, en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'eau. Et donc, dans le petit lait, c'est surtout l'eau et avec quelques minéraux, quelques résidus, enfin, il y a encore quelques sucres, il y a
des protéines,
y a des protéines solubles. Donc, enfin, tout ce qui ne peut pas être solidifié, on va dire.
D'accord.
Dans le cahier.
Ça, c'est la présure qu'il fait.
Non, ça, c'est en coagulation mixte avec un caractère lactique. C'est surtout les bactéries lactiques qui font ça.
Donc,
la présure, elle vient juste accélérer ce processus.
D'accord.
Parce que sinon, il faudrait attendre beaucoup plus longtemps et bon, ce serait des cahiers un petit peu moins fermes. Les goûtages ne seraient pas tout à fait les mêmes. Et du coup, la présure, on la met après. Moi, je la mets le soir. Et là, ça, du coup, je moule. Ben là, tu vois,
elle calcule l'acidité d'ornique, en fait. Et, tu vois, ils nous ont appris ça à l'école. Tu vois le petit appareil, là, bleu, sur le bord de la fenêtre.
Ouais, je vois.
Ça te calcule l'acidité d'ornique de ton lait.
Ouais.
C'est l'activité des bactéries.
Bon, donc là, je vois que tu as, à travers la vitre, on voit que dans la salle de... Comment on appelle cette salle-là ?
Ça, c'est la salle de fabrication.
La salle de fabrication. On voit déjà des petits fromages tout prêts qui sont en train de...
S'égoutter.
Voilà, de s'égoutter.
Ouais.
On en voit dans des petits pots
ouais.
où il y a les fromages qui sont en train de se faire.
Ouais.
Et dans des grandes tubes aussi.
Ça, c'est des bûches.
Pour faire des bûches.
Voilà, d'accord. C'est ça, c'est des moules à bûches, ça.
Et ce que je vois là dans le seau qui pendouille au
ça,
coin
c'est
de la table.
Ça, c'est le petit lait, ouais.
C'est le petit
en fait,
lait.
C'est pour pas qu'il. Bah, là, je le mets comme ça pour pas qu'il coule par terre, quoi.
Ouais, déjà.
Voilà.
Et dans
les
vasques, là
ouais. Ça, c'est le lait qui est accaillé, en fait. Si tu veux, le premier, là, c'est celui que je vais mouler, là, d'ici, je pense qu'il va être prêt d'ici une heure.
Mmh.
Donc, je vais le mouler d'ici une heure, là. Mmh. Et celui d'à côté, c'est la traite de ce matin, que j'ai ensemencé ce matin. Et je vais mettre la présure, donc, à 21 heures, par là. Il y a tout, enfin, ce qu'elle mange, le temps qu'il fait, il y a énormément de choses qui...
Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte.
Ouais.
D'accord.
Mais c'est ça qui est riche, parce que c'est du vivant, ça aussi. Moi, pour moi, j'ai l'impression des fois de faire un peu d'élevage, quoi. Je fais de l'élevage de bactéries lactiques, et ensuite, je passe à l'élevage de flore d'affinage, tu vois.
D'accord.
Qui ont des besoins en humidité, qui ont des besoins en température, qui ont des besoins en ventilation ou pas, selon ce que tu veux faire, qui a des choses qu'elles n'aiment pas, le sel, notamment le géostricum, il a du mal à supporter le sel, donc... Je vais laisser s'implanter un peu plus le géotrichum avant de saler, mais ça dépend des fabrications, du lait, de sa qualité physico-chimique. Le géotrichum, il va plus ou moins s'installer, du temps qu'il fait aussi.
D'accord.
Enfin, tu vois, c'est pour ça qu'il y en a qui disent que, enfin, qui voient le fromage comme une recette, alors que c'est pas du tout une recette. Tu peux pas faire tout le temps la même chose. Parce que ton lait est tout le temps différent, enfin tout le temps. Il est différent selon ce qu'elle mange, selon le temps qu'il fait aussi, il réagit pas de la même manière. Tes flores aussi, elles réagissent pas de la même manière. Donc en fait, t'es sans arrêt en train de t'adapter. Moi, c'est ça que j'aime.
D'accord.
J'ai pas envie de me dire, ah bon, alors à cette heure-là, je fais ci, ok, je regarde.
Tu fuis la routine un peu.
Ah ouais, oui. Déjà, il y en a, c'est inévitable. Ouais. Donc autant essayer d'avoir quelque chose, justement, où tu dois réfléchir, quoi. Tu vois, bon, ok, alors là, ça se passe comme ça. Alors pourquoi ça se passe comme ça? Tiens, hier, c'était pas ça. Ce sera jamais une bonne question.
Bah, en tout cas, je te remercie, Loane.
Bah, merci
d'avoir
à
pris
toi.
Le temps.
Ouais, bah, avec
merci
plaisir.
À Cécile aussi.
Ouais, bah,
Bah, merci beaucoup, en tout cas.
Merci à vous.
Au plaisir.
Merci à toi.
Radio Centrafrique.
Merci à Cécile et Loane, à qui nous adressons tous nos vœux de réussite. Cette émission ainsi que toutes les autres paroles rurales est en libre accès sur notre site internet radiocentafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne.